Bruchsal, premier grand orientaliste autrichien, traducteur des Mille et Une Nuits et du Divan de Hafez, historien de l'Empire Ottoman, ami de Sylvestre de Sassy, et de tout ce que la petite bande des orientalistes comptait comme membres à l'époque. Désigné seul héritier d'une aristocrate de Styrie très âgée, qui lui avait légué son titre et ce château en 1835, le plus grand Wasserschloss de la région. Von Hammer, le maître de Friedrich Rückert, auquel il enseigna le persan à Vienne, et avec lequel il traduisit des extraits du Divan et Shams de Rumi. Un lien entre un château oublié de Styrie et les Kindertotenlieder, qui unit Mahler à la poésie de Hafez et aux orientalistes du XIXe. D'après le programme du colloque, l'université de Graz, notre hôte dans l'illustre palais, avait bien fait les choses. Nous serions logés dans les petites villes de Feldbach ou de Gleisdorf toutes proches. Un autobus spécialement affrété nous amènerait tous les matins à Heinfeld et nous ramènerait le soir après le dîner, servi dans l'auberge du château. Trois salles du bâtiment avaient été préparées pour les débats, l'une d'elles étant la splendide bibliothèque de Hammer lui-même, dont les rayonnages étaient encore garnis de ses collections et, cerise sur ce gâteau, l'office du tourisme de Styrie proposerait en permanence sur place dégustation et vente de produits locaux. Tout cela paraissait particulièrement auspicieux, comme dirait aujourd'hui Sarah. L'endroit était tout à fait étonnant. De larges douves d'agrément, coincées entre une ferme moderne, un bois et un marécage, entouraient un bâtiment de deux étages, au toit pentu, recouvert de tuiles sombres, qui fermait une cour carrée de 50 mètres de côté, si étrangement proportionnée que de l'extérieur, et malgré les larges tours d'angle, ce château paraissait trop bas pour une telle dimension, écrasé dans la plaine par la paume d'un géant. Les austères murs extérieurs perdaient leur enduit gris en grandes plaques dévoyant les briques, et seul le vaste porche de l'entrée, un tunnel long et sombre, voûté en ogive surbaissée, avait conservé sa splendeur baroque, et surtout, à la grande surprise de tous les orientalistes qui franchissaient ce seuil, une inscription en arabe, calligraphiée en rondes bosses dans la pierre, qui protégeait la demeure et ses habitants par ses bénédictions. Il s'agissait sans nul doute du seul schloss de toute l'Europe à brandir ainsi le nom d'Allah Tout-Puissant sur son frontispice. Je me suis demandé, en descendant du bus, ce que ce troupeau d'universitaires pouvait bien contempler, le nez en l'air, avant d'être estomaqué à mon tour par le petit triangle d'arabesques perdu en terre catholique, à quelques kilomètres des frontières hongroises et slovènes. Hammer avait-il rapporté cette inscription de l'un de ses nombreux voyages, ou l'avait-il fait péniblement recopier par un tailleur de pierre local? Ce message de bienvenue arabe n'était que la première des surprises. La seconde était elle aussi de taille. Une fois le tunnel de l'entrée franchi, on avait soudain l'impression de se retrouver dans un monastère espagnol, voire un cloître italien. Tout autour de l'immense patio, et sur ses deux étages, courait une interminable suite d'arcades, d'arches couleur terre de sienne, interrompues uniquement par une chapelle baroque blanche, dont le clocher à bulbe tranchait avec l'aspect méridional de l'ensemble. Toutes les circulations du château se faisaient donc par cet immense balcon sur lequel donnaient, avec une régularité monastique, les si nombreuses pièces. Ce qui était bien surprenant dans un recoin d'Autriche dont le climat n'était pas réputé pour être parmi les plus doux d'Europe en hiver, mais qui s'expliquait, je l'appris plus tard, par le fait que l'architecte italien n'avait visité la région qu'en été. La vallée de l'Arabe prenait donc, pourvu que l'on restât dans ce cortile surdimensionné, un air de Toscane.